Vous savez, c'est une chose impressionnante de lire l'histoire de la rédemption que Christ nous a pourvue. Chaque événement écrit dans les évangiles qui raconte soit les miracles, soit l'enseignement de Jésus-Christ est passionnant à lire. Mais je pense particulièrement au point culminant de l'histoire des évangiles, c'est-à-dire sa mort, ses souffrances, sa résurrection, c'est vraiment émouvant. Et si c'est émouvant de le lire, imaginez ce que ça aurait été d'éprouver ces événements en temps réel, comme ont fait les disciples du Seigneur. Et je veux considérer pendant quelques instants ces versets que nous avons lus en Jean 14, versets 1 à 6, et le conseil de Christ pour les cœurs troublés. Le conseil de Christ pour les cœurs troublés. Ce qui vient de se passer avant ce chapitre, Jésus, on le trouve dans Jean 13, avait pris une serviette, avait lavé les pieds des disciples. Ils avaient mangé ensemble le dernier souper. Jésus avait identifié le traître et puis il est parti. Puis Jésus leur annonça qu'il était sur le point de mourir et qu'ils allaient tous bientôt l'abandonner pendant un certain temps. Vous rappelez peut-être que Pierre lui a insisté qu'il n'irait jamais son Seigneur, mais Jésus a dit à Pierre qu'il ferait exactement cela pas moins de 3 fois avant même que le matin serait venu. Et c'est dans ce contexte-là que nous trouvons les disciples au début de Jean chapitre 14, que donc ont dû être les émotions de ces disciples, peut-être tristes, sans doute. Honteux peut-être à cause de leur propre orgueil et chute, échec, confondus certainement, hésitant dans leur foi, bien qu'ils aimaient leur maître. En bref, ils avaient des cœurs troublés. Alors Jésus dit, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Alors, que signifie-t-il d'avoir un cœur troublé? À quoi peut-on comparer un cœur troublé? Prenons l'illustration de l'eau. En Jean chapitre 5, il nous dit qu'une histoire circulait dans la ville de Jérusalem qu'un ange descendait de temps en temps dans une certaine piscine et agitait l'eau. Et c'est le même mot, agitait l'eau. Et voilà ce que c'est, ce cœur troublé, ce cœur agité, plein d'inquiétude, plein de tiraillement ou de tremblement. Et si nous ne pouvons pas bien l'exprimer, ce que c'est d'avoir un cœur troublé, je suis sûr que nous avons néanmoins vécu et que nous savons personnellement ce que c'est d'avoir un cœur troublé. Alors la première chose que je voudrais que nous considérons, c'est le soin du Seigneur pour les cœurs troublés. Vous voyez le soin qu'il prend, la tendresse de la part de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a beaucoup de confort ici pour nous ce matin. Christ prend soin des cœurs troublés. Et le soin de Christ pour les cœurs troublés était caractéristique. Ce soin presque paternel mais plein d'amour n'était pas atypique pour le Christ. C'était sa nature, c'était habituel qu'il prend soin pour les cœurs troublés. Quelques exemples où nous trouvons le Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, en train de prendre soin des cœurs troublés. Par exemple, en Marc 6, où nous trouvons les disciples sur l'eau, et dans une tempête, et ils voyaient Jésus-Christ approcher, verset 50 nous dit, et ils étaient troublés, mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On pourrait donner aussi comme exemple l'assurance de Jésus à ses disciples en Luc 12, quand il a dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc point. Une autre fois, en Luc 12, verset 29, Jésus dit, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et voilà tout simplement quelques exemples pour démontrer que Jésus-Christ s'inquiétait, pour utiliser le mot avec une valeur positive, s'inquiétait pour ceux qui s'inquiétaient. Mais ce qui rend le soin de Christ pour les cœurs troublés si frappant, si étonnant, ici en Jean chapitre 14, c'est qu'il l'a démontré dans un moment où lui-même avait le cœur profondément troublé. En Jean chapitre 11, il nous est dit que Jésus frémit en son esprit. En Jean chapitre 12, Jésus dit « Maintenant mon âme est troublée ». En Jean chapitre 13, le verset dit « Jésus fut troublé en son esprit ». Et il dit expressément « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Il pense à sa mort. Plus tard, dans le jardin, il parlerait d'être affligé même à la mort. Vous savez, il n'y a rien de mieux que nos propres douleurs à nous inciter à oublier les douleurs des autres. On pense que à nous-mêmes. Et voici Jésus-Christ sur le point de mourir. Un traître déjà au milieu d'eux. Il savait que ça allait être ce soir-là qu'il sera livré à ses ennemis pour être cloué sur une croix. Et dans cet état où son cœur propre était très troublé, il prend soin des cœurs troublés. Parce que la raison même que Jésus était troublé dans son cœur était pour le bien-être de ses disciples. Il ne savait pas, bien sûr, mais il allait porter leur peine et leur douleur. Alors Marcel, vous n'avez maintenant plus de mari et Daniel plus de père. Mais vous avez un sauveur qui prend soin des cœurs troublés et qui vous aime. La chanson est vraie que mon père vient de lire, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Donc, ayant considéré le soin de Christ pour les cœurs troublés, je veux que nous lisons, que nous regardons le conseil du Seigneur aux cœurs troublés. Parce que le Seigneur a du conseil pour eux. Il ne fait pas que compatir, il donne des conseils. Conseils divins, on pourrait dire. Le seul conseil qui les aidera, le seul remède, qu'est-ce que c'est? Regardez-le dans le verset 1, que votre cœur ne se trouble pas, point ou arrêtez de permettre que votre cœur soit troublé. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Croyez, croyez. En effet, c'est un impératif. Croyez, exercez la foi. Alors qu'est-ce que c'est alors le conseil divin de Christ pour les cœurs troublés? C'est de rejeter l'inquiétude et c'est de se confier. J'ai choisi le mot confiance comme synonyme pour la croyance. La foi ou la croyance ou la confiance est le seul remède pour un cœur troublé. Comme Jésus a dit au père de la fille qui était morte, ne crains pas, crois seulement. Le seul remède pour enlever la crainte, c'est de croire. Alors, c'est quoi l'objet de notre confiance? À qui peut-on faire confiance quand nos cœurs sont troublés? Parce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qui dit, moi je ne peux plus faire confiance à aucune, dans aucune personne. Je ne fais plus confiance en personne qu'en moi-même. Et vous savez que Dieu ne vous a jamais demandé de vous confier en qui que ce soit. En fait, le psaume 146 nous dit « Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Mais après, ça dit ça. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Alors l'objet de cette confiance est Dieu et c'est Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est ce qu'il nous dit. Vous savez que la foi c'est la seule manière de faire face au futur inconnu pour tout le monde. Est-ce que vous avez vu demain? Est-ce que vous avez vu la semaine prochaine? La seule façon de faire face au lendemain, c'est par la foi. Mais voici la question. La foi en Dieu ou la foi en quelqu'un ou quelque chose différent. Dans un temps de deuil, c'est certainement un moment où les mystères multiplient. Un homme l'a mis de cette façon. Il a dit, Jésus à ce moment n'a pas expliqué entièrement pourquoi il doit mourir sur la croix, mais il exige une confiance et une foi durable en Dieu et en lui-même, même quand les mystères multiplient. Et je sais pour Marcel et pour Daniel, c'est un moment où les mystères multiplient. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Pourquoi lui et pas moi? Ou quelqu'un d'autre? Mais quand même, Jésus exige une confiance et une foi durable ou constante en Dieu et en lui-même, même quand les mystères multiplient. Le Christ montre au cœur troublé la seule manière dont ils peuvent s'approcher à Dieu et trouver le repos. Ils doivent croire. Alors s'il faut croire, on dit, que faut-il croire? C'est une bonne question. Parce que la réponse nous est donnée en verset 2 et suivant, nous indique ce que Christ les a donné de croire. On a vu l'objet de leur confiance, ou de notre confiance même aujourd'hui, mais nous voyons aussi la teneur, le contenu, si vous voulez, de notre foi ou de notre confiance. Il y a quatre choses qui est dit là. Premièrement, il y a un endroit de réunion éternelle avec le Père. C'est ce qui veut qu'on croit. On ait confiance dans le fait qu'il y a un endroit de réunion avec le Père. Regardez le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alors Christ soulage le cœur de ses disciples qui redoutent cette future séparation avec le fait qu'il n'est pas permanent. Dans l'endroit où il va, là il y a de la place pour eux aussi. Je vais chez mon Père, il leur dit. Et dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors quel confort si vous croyez à cela. Si vous prenez Christ à sa parole, il y a un endroit de réunion éternelle avec le Père, avec une demeure pour René et une demeure pour moi et vous aussi. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est que le départ de Christ est nécessaire pour rendre ces demeures disponibles. Parce que c'est ça qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que Jésus-Christ leur quitte. Ils ne voulaient pas qu'ils s'en aillent. Et Jésus leur dit, le départ de Christ est nécessaire pour rendre ces demeures disponibles. Regardez au milieu du verset 2. Je vais, et voici le but. Voilà pourquoi il les quitte. Je vais vous préparer une place. C'est pour ça qu'ils partent. Et voici dans la manière où nous sommes tentés de comprendre ces mots. Je m'en vais au ciel pour tout mettre en ordre, pour faire le ménage, pour nettoyer, pour faire quelques réparations, comme si la demeure du Père a dû être améliorée à cause de nous. Mais ce n'est pas que nous avons un endroit au ciel avec notre nom gravé sur la porte qui a besoin de rénovation, c'est qu'il n'y a aucun endroit au ciel pour des pécheurs comme nous. Il n'y a pas d'endroit au ciel pour des pécheurs comme nous, sauf si Christ aille nous préparer une place. Quand Christ dit qu'il nous prépare une place, il dit qu'il va rendre un endroit disponible qui a été précédemment interdit. Quand Jésus dit là dans le verset, vous le regardez encore, je vais vous préparer une place, il dit cela. C'est ce qu'il est sur le point de faire qui rendra notre demeure avec le Père possible. Donc quand Jésus dit « Je vais vous préparer une place », comprenez qu'il ne se référait pas à une activité qu'il fera au ciel. Il n'est pas là-haut en train de balayer devant sa porte, comme on dit, ou de construire de nouveaux quartiers. Je suis convaincu qui ne parle pas de cela, mais quelque chose qu'il fera avant même d'aller au ciel. Et je suis convaincu de ce fait parce que avant même qu'il s'est rendu au paradis, il a dit que son travail était accompli. Il a dit tout est quoi? Accompli. Donc le point à souligner n'est pas que je vais au ciel, mais plutôt que je vous laisse. C'est ça qu'il leur dit. Je vais, c'est-à-dire je vous quitte, mais il y a un but, il y a une raison pour tout cela. Donc il est allé au Père, oui en effet, et c'était pour lui la joie de se retrouver auprès du Père. Mais la seule façon La seule manière pour que Christ aille au Père et nous prépare une demeure auprès du Père au même temps, c'était en passant par la croix. Et c'est de ça qu'il parle. Quand il dit « Je vais vous préparer une place », il parle de la croix de Calvaire. Ses disciples sont affligés par le fait que leur Messie les quitte. Il allait et il leur avait dit qu'il allait passer par la mort. Mais Christ leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez. » Croyez, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et mon départ est nécessaire pour rendre ces demeures disponibles. Je vais, je vous laisse, mais je vais vous préparer une demeure au ciel. Et vous savez, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas un ciel en construction, mais c'est une demeure préparée au calvaire. Et c'est ce que René a connu. Alors y a-t-il un cœur troublé ce matin? Pour quelque raison qu'il en soit, le Christ prend soin des cœurs troublés et il donne du conseil. Il faut lui faire confiance qu'il y a un endroit de réunion avec le Père au ciel, que le départ de Christ et sa mort sur la croix, qui est maintenant accomplie, était nécessaire pour rendre ses demeures disponibles. Et troisièmement, que le Christ retournera certainement pour nous prendre avec lui. Vous voyez ça dans le verset 3. Christ retournera certainement et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le confort est que nous serons avec lui et nous serons aussi avec René et avec tous les autres saints réunis dans le bonheur éternel, dans la communion fraternelle auprès du Père. Et la quatrième chose que nous voyons, c'est que le Christ est le moyen ou le chemin par lequel nous arrivons au Père. Regardez le verset 4. Vous savez où je vais, il parle du ciel, ou le Père, et vous en savez le chemin, c'est-à-dire Christ lui-même. J'ai dit, vous savez que je vais au Père, vous savez que je suis le moyen ou le chemin pour vous rendre au Père, mais les disciples ne le savaient pas. Et je crois que Jésus le dit de cette façon afin de démontrer leur ignorance et de susciter leur intérêt. Ça marche parce que Thomas lui dit en verset 5, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Ah, maintenant ils sont prêts à écouter la réponse. Il y a deux questions là et Jésus va répondre à la deuxième en premier. Nous ne savons pas le chemin. Jésus lui dit en verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au... » Et c'est qui ? Voilà, il vient de parler d'aller au Père et dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Christ est allé au Père en passant par la croix, fournissant par conséquence un chemin pour que nous pourrions aller au Père passant par Jésus-Christ. Et c'est ce salut que René a connu. Il est venu à Christ. Il a pris comme son sauveur et son maître. Et je sais que le désir de son cœur, ce serait que tous ses amis réunis ce matin connaîtrait aussi ce même sauveur.